Chapitre 11e, ça colle.
Aujourd'hui, l'information a de telles exigences de rapidité et de documentation précise qu'un vrai reporter doit être apte à tout, oser tout et ne s'étonner de rien. Je pensais que Martin Numa, connaissant mon amour de ma profession, n'avait pas hésité, ayant quelque chose à me faire connaître, à m'envoyer quérir, tout en employant ce moyen qui me permettait de le rejoindre promptement et d'échapper à l'espionnage. Il était certain en effet que, tout comme Martin Numa, on me filait, me pistait. Les ennemis du détective devaient chercher à arriver à leur but en me suivant. Notre amitié était connue. On savait que Martin Numa m'emmenait quand il partait en campagne. Il était de naturel de compter arriver par moi, en me suivant, à découvrir la demeure mystérieuse. Mais on comptait sans ma docilité et sans les ressources merveilleuses de Martin Numa. Très rapidement donc, et bien plus sûrement que dans une voiture, nous voici, Prosper et moi, arrivés à bon coup de pédale, devant le marchand de vin, dont la maison formait coin et s'ouvrait sur la rue où se trouvait la demeure du détective que ses ennemis tenaient tant à connaître. Quoi de plus naturel pour des distributeurs de journaux qui arrivent à toute volée du centre de Paris au fond de Passy que de s'arrêter un moment chez un marchand de vin? Il y avait chez le Mastroquet quelques consommateurs qui, avec Prosper, échangèrent un rapide coup d'œil. Alors, au lieu de demeurer en bas et de nous approcher du comptoir d'étain, vulgairement appelé le zinc, Prosper me conduisit à l'étage au-dessus. Là, nous étions en toute sécurité. Après nous être débarrassés de nos journaux, des cache-nez, des casquettes, « Venez, me dit Prosper, tenons-nous à la croisée, et par un coin du rideau, sans nous laisser deviner, voyons ce qui va se passer dans la rue. » Il tira sa montre. « Bon, fit-il, nous sommes en avance de quelques minutes. Le chef ne va pas tarder à paraître. » Prosper me dit alors qu'aux alentours de la maison du crime, parmi la foule des curieux que les agents retenaient dans les rues voisines de la rue Saunier, Martin Numa et lui avaient remarqué la présence de plusieurs individus dont ils se méfiaient. Il s'était vu suivi. Martin Numa avait pu lui donner ses ordres, puis il était rentré tranquillement chez lui, rue Lepic. Prosper était venu me chercher. Nous n'avions plus qu'à attendre. « Tenez, me dit-il, vous voyez sur le trottoir en face, voilà encore deux hommes en faction. Ils seront signalés au chef quand il paraîtra. » En effet, deux hommes en toilette de ville, pourtant d'élégants par-dessus, se promenaient sur le trottoir, parlant comme deux amis qui achèvent une conversation intéressante avant de se séparer et de rentrer chez soi. « Ils sont enragés, me dit Prosper. Ils veulent à toute force découvrir la demeure secrète du chef. » À ce moment, dans la rue, un ouvrier qui passait se mit à siffler une chanson de café-concert. « Ah ah !» fit Prosper. « Voilà le chef. » J'eus beau écarquiller les yeux, je ne vis personne. Je ne parvins pas à distinguer parmi les quelques passants le chef signalé, Martin Numa. Je vis bien un homme vêtu d'une grande blouse blanche, portant une petite échelle, un seau plein de colle, des affiches sous le bras. Cet homme colla une affiche sur d'autres affiches et reprit sa marche. « Tenez, regardez, me dit Prosper, suivez le colleur. » L'afficheur, son échelle sur l'épaule, le pot de colle accroché à l'échelle, s'était remis en chemin, et la cigarette aux lèvres, lançant de temps en temps des bouffées de fumée, il s'en alla en quête d'un nouvel emplacement d'affichage. Maintenant il se trouvait à quelques pas des deux gentlemen qui se promenaient, devisant toujours. Comment s'y prit-il? Glissa-t-il? Fit-il un faux pas? Mais je le vis trébucher et comme perdre brusquement l'équilibre. Son échelle lui sauta de l'épaule et le pot rempli de colle alla tomber sur les gentlemen qui l'inonda d'une bouillie blanche épaisse. Des cris, des imprécations retentirent aussitôt. Le colleur, cependant, s'excusait de son mieux. Avec la main, il essayait d'enlever la colle qui s'allongeait gluante sur les chapeaux, sur les pardessus des gentlemen. Avec sa blouse, tout en se confondant en excuses, il les aidait à se nettoyer. Eux, avec leurs mouchoirs, tout en pestant, s'essuyaient de leur mieux. Mais ils ne pouvaient rester ainsi dans la rue. Ils n'arrivaient pas à se nettoyer. Alors, après quelques suprêmes qualifications de brutes, de malotrues adressées aux colleurs, qui encaissaient tout cela d'un air absolument piteux, ils s'en allèrent furieux. Prosper alors éclata de rire. De mon côté, je goûtais fort à la comédie et admirais le roi des détectives. « Si j'osais me servir d'un jeu de mots, » fit alors Prosper, « je pourrais dire que le chef les a collés. » La voix maintenant était libre. Quelques instants après, Prosper me donnait un chapeau, un pardessus, et je pouvais aller demander si M. Durand était chez lui. Martin Numa se trouvait déjà dans son atelier. Il se préparait à photographier. Quand j'entrais dans l'atelier, il me lança seulement un coup d'œil, comme pour me dire « Ah, c'est vous, Courville. Bon, entrez. Asseyez-vous, ne bougez pas. » « Oui, ça va, ça colle. » Mais il ne souffla mot et vaqua à ses occupations comme si je n'étais pas là. En face de sa chambre noire, il mit un chevalet, sur une planche une feuille de papier, qu'il accrocha avec des pointes à dessin. Comme il se remettait sous le voile noir de son appareil, je pus voir ce qu'il allait ainsi photographier, et j'eus un tressaillement. J'éprouvais une profonde émotion. C'était le carré de papier que Martin Numa avait ramassé parmi les autres documents, les cartes postales qui se trouvaient répandues sur le tapis du salon de la malheureuse chanteuse, la Margelina. Et ce carré de papier portait une empreinte sanglante, une main rouge, tranchant nettement sur le fond blanc. Ainsi, comme pour l'affaire Castanier, Martin Numa possédait ce qu'il appelle la signature de l'assassin. Peu après, il disparaissait dans son laboratoire, ayant pris deux clichés de cette empreinte terrifiante. Toujours sans parler, vif, alerte, il prépara son appareil de projection comme je le lui avais déjà vu faire. Puis il prit dans une boîte qu'il alla retirer d'une armoire à lourd battant de fer un cliché. Il projeta ce cliché. C'était le pouce. Le pouce trouvé sur le bloc-notes du banquier Castanier. Ceci fait, il retourna dans son laboratoire et en ressortit avec dans ses mains deux plaques ruisselantes. Il examina par transparence l'une de ces plaques et la glissa dans la rainure de l'appareil à projection à la place du pouce déjà étudié. Sur l'écran, une nouvelle empreinte de pouce se forma, nette, précise. Martin Numa se mit à l'examiner de près, à l'étudier pendant un long moment. Puis il prit un carton portant une épreuve photographique du pouce trouvé chez le banquier, et avec une scrupuleuse attention, il étudia et compara l'épreuve et la projection. Enfin, il glissa dans sa lanterne à projection, qui comprenait deux corps, le cliché de la première empreinte. Peu à peu, avec des tâtonnements, avec minutie, il assembla les deux projections. Je suivais anxieusement tout ce travail. Dans le silence de l'atelier, dans cette obscurité, ce seul trait de lumière, ce rayon, avait quelque chose de tragique. Et ces deux mains immenses qui se rapprochaient, s'unissaient, se fondaient, causaient vraiment une fantastique impression. Cette main noire dans ce soleil, main d'assassin, qui apparaissait en évoquant les crimes horribles, il me semblait la voir vivre, remuer, étrangler le cou d'Irma Castanier, ou percer la poitrine de la chanteuse, de la jolie Margelina. C'était angoissant. Martin Numa, lui, penché sur la projection, regardait, cherchait, étudiait. Tout à coup, dans ce silence tragique, sa voix nette, coupante, brève, s'écria : « C'est la même main, c'est le même pouce !»